Du 12 août 1991 au 24 août de la même année, André Thevin a montré comment se faisait une charbonnière, comment on faisait du charbon de bois, en vérité, devant tous ceux qui ont bien voulu aller le voir à Saint-Olé. C'était une animation que proposait là cette ville, de la Double. Et donc, ils ont été chercher André Thevin, qui est le dernier charbonnier. Son père était charbonnier, il vivait de son métier. André Thevin lui fait ça ben, plutôt dans ses loisirs. C'est sa façon à lui de prendre des vacances. Il fait des charbonnières, mais ce n'est pas rien. Et bon, pour tous ceux qui ne savent pas comment peut se faire le charbon de bois, eh bien, nous allons écouter André Thevin maintenant nous en parler, nous présenter son métier.
Terrain, il faut que ce soit d'abord assez plat, et puis où on peut, où il y a le bois aussi, pas trimballer tout partout quoi. Il faut chercher le bois. Dans le temps, c'était où ils faisaient les brasses de bois. Enfin, on pouvait apporter ça avec des mulets ou des vaches ou je sais pas. Maintenant, avec des tracteurs.
Quel genre de bois faut-il?
Ah, principalement du chêne. Chêne ou charme, pas trop vieux. Le chêne, bon, ça passe, mais le charme, pas trop vieux.
Donc un bon emplacement, c'est quand même quelque chose d'important pour faire une charbonnière. Car bon, il faut être dans les bois, comme ça on n'a pas besoin de transporter les brasses de bois nécessaires. Il faut quand même que ce soit plat pour pouvoir faire la charbonnière par elle-même, qui est une sorte d'igloo de bûche, de bois. Et puis, il faut qu'il y ait de la pelouse, qu'il y ait de l'herbe pour faire des pelons. Car on commence toujours une charbonnière par faire des pelons.
Un pelon, c'est 5 coups de tranche. Pour avoir un pelon. Ben, ça fait partie de la pelouse et de la terre. Il faut faire le tour avec la tranche, faire un pelon à peu près rond, d'un diamètre environ de 30-35.
Et ça sert à recouvrir la charbonnière une fois qu'elle est allumée.
La charbonnière et aussi la cabane.
Oui, la cabane, car le charbonnier reste sur place. Il surveille durant tout le temps de la cuisson sa charbonnière que ça ne se prenne pas trop feu pour que le charbon de bois puisse se faire. Et des fois, ça dure eh bien 15 jours. Donc, il faut sa cabane, une cabane faite de bûches de bois, vraiment très rustique. André Thevin maintenant nous explique comment il construit sa charbonnière.
D'abord, que ce soit bien plat, on commence par trois bouts de bois. Il faut déjà dépelouser et faire un plat, et ça commence par trois bouts de bois. Et on monte la cheminée, on empile autour, jusqu'à temps que ça fasse la largeur qu'on veuille, quoi. Exactement.
Trois bouts de bois qui sont mis comment hein?
Eh bien, ils sont mis en diagonale et on monte jusqu'à la hauteur d'un mètre et puis on appuie tout le tour et puis on continue.
Et au milieu, il reste un trou. Alors là, c'est la cheminée. Quel est l'usage de la cheminée?
L'usage de la cheminée, c'est pour mettre le feu, tout simplement. Voilà, il faut mettre le feu dedans, on l'alimente jusqu'à temps que ça brûle et puis quand ça brûle, on l'étanche et puis c'est fini. Après, il faut surveiller autour. Mais c'est tout un art.
Et justement, donc là, vous avez entassé pas mal de bois. Tout d'abord, c'est en rond, ils sont quasiment droits. Ensuite, vous en avez mis d'autres dessus pour faire un genre de... C'est pas une toiture, mais c'est une tête un petit peu.
Voilà, c'est ça s'appelle la tête, oui. C'est une tête pour faire la toiture après avec les pelons. Il faut accorder les bouts de bois, les croiser, de façon à ce que les pelons ne tombent pas dans un trou qui soit à peu près plat. Enfin, en forme d'arrondi, quoi.
Justement, alors les pelons, c'est pour recouvrir toute la charbonnière, tout le bois, mais pourquoi?
Pourquoi? Pour pas que ça brûle. Parce que si vous mettez rien dessus, automatiquement ça va brûler. C'est comme si vous mettez le feu à une boîte de paille, c'est pareil. Ça va faire un tas de flammes, un tas de cendres, vous n'aurez pas de charbon. Si ce n'est pas recouvert, vous n'aurez rien.
Et donc le fait que ce soit recouvert, ça implique quoi?
C'est-à-dire que la terre fait un filtre, ça empêche que le feu se mette dans le bois.
Dans le bois, pourtant le feu y est dans le bois, puisque vous l'allumez quand même la charbonnière.
Oui, affirmatif, on l'allume, mais le feu ne passe pas à travers la terre. Donc la fumée passe à travers la terre, mais le feu reste dessous. Et s'il se fait un trou à la terre, le feu se met là, mais après ça fait plus de charbon, ça fait des cendres. C'est pour ça qu'il faut surveiller, de façon que la terre ne bouge pas.
Et là, les pelons, alors, y a-t-il une façon particulière de les mettre, de les tailler?
Ah oui, affirmatif, il faut les tailler en rond et les faire en forme de toiture, commencer par le bas, en montant jusqu'en haut. Comme des tuiles, pareil.
Et oui, tout l'art du charbonnier, c'est de faire carboniser le bois et non pas le faire brûler. S'il brûle, il y aura de la cendre, comme vient de nous le dire André Tevin, et de la cendre, bon, ce n'est pas très utile. Tandis que du bois carbonisé, ça donne du charbon de bois. Et c'est bien sûr les pelons. Ces pelons sont des couches d'herbe et de terre qui sont sur la charbonnière, les bûches entassées, qui font que les flammes ne sont pas vraiment en contact de l'oxygène, donc ça brûle pas, ça chauffe. Voilà, donc vous avez déjà une idée sur la façon de faire du charbon de bois. Il faut savoir que cette méthode est vraiment très très ancienne, puisque de tout temps, les charbonniers doubleaux ont assurer l'approvisionnement de toute la région en charbon, et pas seulement la région de la Double ou du Périgord, car ça a été l'Aquitaine, l'Angoumois, l'Ony-Saint-Onge qui se sont approvisionnés auprès des charbonniers doubleaux, mais ça c'était il y a très longtemps. Ensuite, depuis, disons, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les charbonniers, bien plus personne ne fait appel à eux, donc c'est un métier qui a complètement disparu, seul reste André Tevin. Aborder le métier de charbonnier, c'est aussi quand même apprendre un vocabulaire, un jargon propre à cette profession. Alors on a déjà vu pelon. Qu'est-ce que c'est qu'un pelon? On sait que c'est une plaque de terre liée naturellement par des racines et des herbes. Maintenant, je crois qu'il faut savoir ce que c'est que phrasie.
Le phrasie, c'est là où il y a eu un emplacement d'une ancienne charbonnière, où il y a eu la terre cuite qui est noire. Mais c'est une terre qui est assez riche. Elle tient beaucoup plus la fraîcheur que l'autre. C'est une terre qui est cuite et qui garde une certaine étanchéité. Quoi.
Et l'étanchéité, c'est une chose importante pour la charbonnière. On a déjà vu son importance quand on a abordé les pelons. Le phrasie va avec les pelons, toujours dans ce souci qu'il n'y ait pas de trou d'air pour ne pas transformer le bois qui se carbonise en cendre. Mais comme nous venons de le voir, la terre, c'est très important dans la conception du charbon de bois. Et la terre, ce n'est pas n'importe quelle terre. Pour André Tevin, qui est originaire des Chourgnacs, la meilleure, c'est tout simplement celle des Chourgnacs.
Oui, il n'y a pas de problème. Il faut la terre des Chourgnacs. Une bonne terre, il n'y a qu'à les Chourgnacs où il y a de la bonne terre.
Je tiens à signaler que vous êtes originaire des Chourgnacs.
Affirmatif, je suis des Chourgnacs, oui.
Alors qu'a-t-elle de si particulier, cette terre des Chourgnacs?
Oh ben on ne peut pas la remplacer pour faire des charbonnières ailleurs. La terre qu'il faut, c'est la terre de notre Double, des Chourgnacs, et c'est la meilleure.
Si André Tevin a des idées bien arrêtées sur la terre qu'il convient, sur celle qui est la meilleure, il a aussi des idées bien arrêtées sur les formes que prend la charbonnière. Et si on lui dit que ça ressemble à un igloo, ça ne lui va pas.
Non, une charbonnière, c'est pas un igloo. C'est un truc qui est vieux. Enfin, ça, c'est une petite. Mais il y a beaucoup plus gros que ça, et on n'habite pas dedans, hein, à part les rats qui peuvent se faire surprendre par le feu quand elle est couverte, mais c'est pas un igloo. Hein.
Mais là, bon, celle que vous faites à Saint-Olé, elle a un petit peu cette forme, c'est vrai que c'est une petite, vous utilisez trois brasses de bois, je crois, alors que c'est vraiment petit.
C'est petit, oui, mais il faut déjà le faire. Il faut déjà le faire, et surtout faire les pelons et la piler et tout, et c'est petit, oui, c'est la plus petite qui est vraiment conforme à ce que mes parents faisaient, mon père faisait, et ainsi de suite, auparavant. Quoi.
Oui, comme les parents le faisaient, les parents d'André Tevin, c'est vrai que son père fut un charbonnier lui-même, et qu'il a arrêté son activité en 1945, à la fin de la guerre, car c'est à ce moment-là aussi qu'est arrivé le gaz, et le gaz, ça a tout à fait remplacé le charbon de bois, en 1945, le gazogène aussi. Une fois que le charbonnier a installé en demi-sphère ses bûches, et ce sur plusieurs étages, une fois qu'il a aménagé la cheminée, un espace vide au milieu de la charbonnière, et qu'il a réparti suivant la grosseur les petits bouts de bois, les bûches, eh bien, que les pelons sont installés, il est temps de l'allumer, cette charbonnière. Mais il faut dire que dans le cas d'André Thevet, quand il a présenté cette charbonnière en août 91 à Saint-Olé, il lui a fallu tout de même 2 jours pour la construire. Bon, nous en arrivons à l'allumage. Voici comment ça se déroule.
Pour l'allumer, on fait un bon feu à côté. On prend une pelle, puis sa perche, puis on grimpe les braises par la cheminée en haut. Et puis on alimente ça comme un poêle, pas de problème. Puis une fois que la cheminée est brûlée, on étanche tout, on bourbisse ça bien. On la recouvre et puis après on la règle par les feux, par les petits tours d'aération qu'on fait sur les côtés.
Voilà, alors c'est tout un jeu d'aération finalement pour faire consommer comme on veut le bois.
Oh, pas trop d'aération, juste par le bas pour que le feu puisse rester à l'intérieur, pour que le feu puisse carboniser le bois, quoi.
Et là, alors, comment cela se passe exactement pour carboniser? Comment on en arrive à avoir du charbon de bois? Justement, bon, effectivement, il n'y a pas de brasier, mais c'est dû à quoi ce charbon de bois?
Mais c'est dû par la force de la chaleur. C'est dû que, bon, on met le feu dedans et ça cuit par la force de la chaleur. Et c'est-à-dire que si vous faites un trou, il y a du feu. Et si vous ne faites pas de trou, il n'y aura pas de feu, mais il y aura toujours la force de la chaleur dedans qui va faire le. On ne voit pas le feu, il ne se voit pas le feu.
Quelle est la température de cette chaleur?
Bon, je ne sais pas, je n'ai jamais mesuré, mais ça peut faire 1000 degrés facilement. Hein. D'abord, on fait fondre du verre, on en fait faire. Moi, j'ai fait fondre des trucs dedans, ça fond. Vous mettez une bouteille ou vous trouvez une boule. Tu mets, un morceau de ferraille, il fond. Ça peut faire facilement 1000 degrés, oui.
Dans le cas de la charbonnière qu'a construit André Thevet à Saint-Olé en août 1991, bon, 3 brasses de bois, selon lui, devaient donner à peu près 1200 kilos de charbon de bois. Mais c'est variable parce qu'il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, il nous en parle.
Ça dépend quand le bois est coupé, et puis enfin, il faut du bois pas trop vieux. Il faut pas du bois qui est 10 ans, quoi. Parce que plus le bois est vieux, plus il est léger. Et le charbon aussi, et bien sûr, il est plus léger. Oh, on l'arrose un peu après.
Et où est le problème quand le charbon est léger?
On met un peu de frasier au fond du sac.
Ça, c'est après pour la vente du charbon, bien sûr. Parce qu'effectivement, le charbon peut avoir différents poids et dans le sac, il y a toujours le même volume.
Ah ben, suivant la qualité du bois que vous faites cuire, le charbon est plus ou moins lourd ou plus ou moins léger. Si vous faites cuire du pin, du châtaignier, il sera léger, hein. Mais si vous faites cuire du chêne, vous aurez un poids respectable.
Alors là, bon, entre le moment où vous construisez la charbonnière, vous l'allumez, ça prend combien de temps pour une de 3 brasses comme celle-ci?
Ouais, il faut compter 15 jours en tout. Du départ à la fin, il faut 15 jours.
Et combien de temps de cuisson, si l'on peut dire?
Oh ben, l'allumer 3 jours, il faut 4 jours et demi, 5 jours. Ça dépend du temps aussi. Le temps, il prête aussi. Hein. S'il fait trop mauvais, il faut un peu plus. S'il fait pas trop mauvais, bon ben.
Et durant tout ce temps de la cuisson, il faut que le charbonnier soit à côté pour surveiller sa charbonnière. Et pour cela, il a sa cabane, je vous en ai déjà dit 2 mots. Écoutez aussi comment elle est fabriquée, cette cabane. C'est très simple.
C'est vraiment la cabane du charbonnier. Il n'y a ni pointe, ni ficelle, ni rien. Il n'y a que des bouts de bois. Vous pouvez toucher, c'est solide. Hein. Ça peut pleuvoir. Si ça pleut un peu trop, des fois, il peut y avoir quelques gouttières. Mais on a des tuiles de rechange à côté.
Oui, ce sont les pelons.
Voilà, affirmatif, c'est les pelons.
Quand je vous disais que c'était simple de faire une cabane de charbonnier, c'était quelque peu un euphémisme, car en fait, il faut tous un savoir-faire. Et ce qui est aussi étonnant de voir, c'est bien André Thevin mettre les bûches l'une sur l'autre, les essayer, puis non, les prendre pour les mettre ailleurs, jusqu'à ce qu'elles trouvent leur place, qu'elles s'encastrent parfaitement.
Mais chaque bûche a sa place, même si elle est tordue, on trouve toujours une place pour la mettre. Et si cette droite doit aller là, et la tordue doit aller là-bas, la tordue va là, et la droite va à côté. Il faut la mettre où elle doit aller. Elle a sa place.
Et quelle taille ont ces bûches en général? Quelle est la taille, dirons-nous, idéale?
La taille idéale, c'est du bois de brasse. C'est, je sais pas, moi, c'est peut-être 10 de diamètre. Je sais pas, j'ai jamais j'ai contrôlé le diamètre. C'est du bois de brasse courant. Voilà.
Vous le savez maintenant, il faut surveiller une charbonnière. Comment s'effectue cette surveillance? Écoutons André Thevin.
Il faut la surveiller les jours si vous voulez pas avoir un pilon de cendre. Parce qu'une fois qu'elle est allumée, bon, mais les premiers jours, c'est pas tellement dramatique. Mais seulement où ça devient dramatique, c'est quand la cheminée est cuite et puis que la tête commence à s'affaisser. Et là, elle peut percer. Alors là où ça perce, ça fait un trou. Et là où il y a un trou, il n'y a plus de charbon, c'est fini. Le bois brûle et vous trouvez des cendres, mais pas de charbon.
Oui. Est-ce que ça reste limité à la zone où il y a le trou ou est-ce que ça peut après amener le feu dans toute la charbonnière?
Négatif. Là où il y a le trou, vous la laissez deux jours et vous trouvez un tas de cendres. Il n'y a plus rien. Plus de bois, plus de charbon, plus rien, vous pouvez vous en aller prendre votre valise et...
Et donc,
c'est même dangereux à la rigueur, parce que ça peut arriver à mettre le feu ailleurs, parce que vu l'intensité du bois qu'il peut y avoir, ça peut mettre le feu. S'il y a des bois à côté, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il vaut mieux y être.
Et donc pendant 4-5 jours, dans ce cas-là, il faut que vous soyez à côté, mais est-ce que ça vous oblige à pas du tout dormir, à être toujours à tourner autour?
Non. Pas toujours tourner autour. Les premières nuits ne sont pas dangereuses. Lorsqu'elle commence à gouverner, dès qu'elle commence à percer,
Vous venez d'utiliser le terme gouverner, qu'est-ce que ça veut dire?
Gouverner, c'est que lorsqu'elle commence à s'affaisser de la tête et que les trous peuvent se faire lorsque les pelons s'affaissent. Dès que ça cuit, bon, mais elle s'affaisse et puis alors les pelons ils glissent, puis ça peut se faire. Il peut se faire des trous n'importe où. Ou un bout de bois il casse dessous qui n'a pas été mal placé comme il faut, puis ça fait un trou, puis ça fait un appel d'air, puis le feu se met dedans.
Et ça arrive souvent en règle générale?
Oh, ben ça arrive moi aussi, ben, chaque charbonnière, il n'y a pas de problème.
Mais à plusieurs reprises, il y a souvent des trous comme ça qui dans la charbonnière, dans la même charbonnière?
Oh, il y a des nuits où vous pouvez en avoir 4 ou 5, quand même pas du tout. Hein. C'est elle qui décide, c'est pas nous. Quelquefois, il peut rester quelques tiges sur le bord. Mais enfin, les tiges, c'est pas grand-chose, c'est la dernière bûche et il vous reste un petit bout.
Ce qui touchait terre.
Ce qui touche terre, à l'intérieur, il n'y en a plus. Mais c'est sur la bordure, quelquefois ça arrive sur la bordure parce qu'on donne une petite pente supplémentaire pour les pelons. Alors on écarte un peu la bûche et puis ce qui se fait qu'il y a une petite tige qui se fait, mais c'est pas méchant.
Sinon alors, outre les trous qui risquent de se faire, qui sont donc très embêtants, puisque ça fait de la cendre et non pas du charbon, est-ce qu'il y a un entretien particulier à faire régulièrement durant le temps que brûle la charbonnière?
Non, juste à surveiller. Surveiller, puis la guider par suivant d'où vient le vent, si c'est du mauvais temps ou boucher un trou d'un côté. Suivant où elle s'affaisse, il faut ouvrir ou fermer des volets d'air qui sont sur les côtés. Qu'on fait nous-mêmes, quoi.
Il n'y a pas de purge?
Ah non, la purge se fait lorsque la cheminée est brûlée. C'est-à-dire quand la cheminée est brûlée, on peut la purger, faire partir les gaz un bon coup, lui donner un bon coup de fouet, et après on la bourre bien, puis c'est fini, on la touche plus jusqu'à la fin.
Pour purger la charbonnière, tout comme pour l'allumer, il faut pouvoir monter au sommet de cette même charbonnière. Bon, celle qu'avait fait André Thevin à Saint-Olé n'était pas très haute, mais il peut y en avoir de beaucoup plus haute. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une échelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle échelle. Il ne faut pas que l'échelle soit plaquée contre la charbonnière, sinon ça pourrait déplacer les pelons, donc faire des appels d'air. Donc, si la charbonnière est déjà allumée, faire se consumer le bois et non pas le faire se carboniser. Non, c'est un bout de bois avec quelques aspérités que le charbonnier plante dans le sol. André Thevin nous en parle.
Et l'échelle, oui, c'est une échelle particulière, oui. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas avoir d'ampoule et il faut savoir y monter après. C'est une simple barre qu'on se met entre les jambes. pas confondre. Hein. Il faut savoir grimper d'une main puis amener la pelle de l'autre pour l'allumer.
Alors, est-ce que ce n'est pas quelque peu dangereux de monter comme ça sur une charbonnière allumée? Parce que si ça s'effondre, 1000 degrés, ça fait chaud.
Ah non, 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 négatif au premier. Quand vous montez votre pelle de braise avec la barre, elle n'est pas encore allumée. Vous l'allumez qu'après. Et c'est au bout de quelques jours qu'il faut se méfier, oui. Pas s'effondrer quand vous allez la gouverner en haut.
Voilà, parce qu'il faut y remonter plusieurs fois quand même. Il n'y a pas que pour l'allumage qu'il faut y monter.
Oh, il n'y a pas que pour l'allumage. Il faut l'alimenter. Il faut y monter quelques fois. Après, il faut la purger. Il faut. Oh, c'est tout un bazar. Il faut le faire vu quand comme elle cuit, quoi. Comme faut la voir. S'il n'y a pas besoin d'y monter, il ne faut pas y monter dessus. Le moins qu'on y monte, meilleur c'est. Parce que comme ça, les pelons ne bougent pas.
Et voilà, il y a aussi tous les pelons auxquels il faut faire attention. Et bon, ben, alors, est-ce qu'il risque quand même d'y avoir des accidents si quelqu'un y arrive qui n'est peut-être pas du métier et qui monte n'importe quand, n'importe comment?
Ça pourrait arriver, oui. Lorsque lorsque la tête commence à s'affaisser, il pourrait y avoir quelques pépins, oui. Parce que s'il passe les pieds à travers, qu'il ne sait pas où il met les pieds quand il monte dessus. Mais s'il passe la cheville à travers, il pourrait avoir chaud aux pieds. Tu balayes tout ce qu'il y a dessus, toute la saloperie de la fou en bas, et après tu fais le tour avec ta pelle et tu recouvres, avant que le feu se mette dedans. Et après tu peux sauter dans la drone en bas là-bas. Tu as au moins 3 km de sueur de charbon. C'est affreux.
Donc, c'est quand même très chaud, mais c'est pour tirer le charbon de bois, après pour le mettre dans les sacs, enfin, pour le sortir des décombres. Comment cela se passe?
Oh, il n'y a pas de décombres, il ne reste plus que des charbons puis des cendres, quoi. Mais enfin, quand tu le tires à pied, tu fais une belle roue autour, la première roue, enfin une petite d'abord à l'entrée, en cas qu'il y ait des tiges. Parce que les tiges, il faut les jeter en bois. Les jeter, c'est un petit peu de bois qui n'est pas consommé. Ça arrive qu'il en reste un petit peu autour des tiges. Ça peut arriver. Alors tu fais une petite roue, puis avec ton râteau, tu trisses ça, puis tu le fous. Il faut le jeter, il ne faut pas le mettre dans le sac, sinon tu voles le client. Bon, le client, il ne serait pas content s'il n'avait que du bois ou du charbon. Après, tu fais une belle roue. Une roue, la roue de charbon, c'est que tu piques avec ta pelle, puis après, avec ton râteau, tu la tires. Puis il faut recouvrir aussitôt derrière. Tu la recouvres.
Il faut recouvrir.
Mais si tu ne recouvres pas, le feu va se remettre dedans. Parce qu'il reste toujours du feu. Toujours, il reste un peu de feu.
Donc c'est là où vous êtes obligé de mettre de la terre, beaucoup de terre, et que ça fait de la poussière.
Ben, c'est pas la terre, c'est la terre qui est cuite, qui est dessus la charbonnière, qu'on recouvre avec. Oui, c'est ce qui va devenir frasie. C'est la terre qui est cuite qui va redevenir frasie. C'est elle qui sert à éteindre le feu.
Alors, ça doit être très très chaud d'être là à côté.
Oh ben, marcher pieds nus dedans, c'est pas évident. Hein. Moi, j'y marche avec des sandales, des fois ça les fond. Hein. Mais il faut faire attention, on met les pieds.
Là, est-ce que vous avez une tenue particulière?
Non, c'est une tenue habituelle. Hein. Une vieille paire de pantoufles, puis c'est bon, ou des sabots, à l'entente c'était des sabots en bois, c'était bon.
Et en combien de temps ça refroidit?
Oh ben, on refroidit en un jour et demi. Si se met à pied le soir, on peut commencer à tirer la petite roue le soir, puis le refroidir. On le refroidit le lendemain, une fois, puis c'est bon. Le refroidir, ça s'appelle de balayer toutes les cendres, les saloperies qui sont sur la charbonnière, on en fout tout en bas, et après il faut le recouvrir.
Et l'eau, on ne peut pas l'utiliser?
Ah, il n'y a pas question d'eau là. Hein. Non, négatif. On emploie de l'eau à la rigueur quand on a tiré une roue, lorsqu'il y a un petit feu qui s'allume. Oui, avec un arrosoir, on arrose un petit peu l'endroit où le feu peut se mettre. Sur un petit nœud qui n'est pas cuit, et sur une braise qui reste. Parce qu'une seule braise vous met le feu à toute une roue de charbon. Hein.
Et il serait vraiment dommage que le labeur d'une dizaines, voire douzaines de jours, soit comme ça, bien parti en fumée, à cause d'une braise, car effectivement, une fois que la roue de charbon est faite, c'est que le charbon de bois est là, qu'il n'y a plus de bois, que tout le bois a cuit, qu'il s'est carbonisé, et que le charbonnier peut commencer à vendre son charbon. Quoi qu'il en soit, eh bien, comme vous l'a dit André Tevin, il ne faut pas utiliser l'eau. Et oui, l'eau, ça alourdit le charbon, c'est tout ce que ça fait. Alors même s'il a vendu son charbon de bois, le charbon qu'il avait fait, André Tevin ne vit pas du métier de charbonnier. Non, il fait ça sur ses temps de loisir. Et bon, bien, il le fait à Saint-Olé, mais il l'a fait dans d'autres endroits pour montrer à tout le monde, au Doubleau, comme au Périgourdin, comme aux touristes, comment faisaient les charbonniers d'antan, comment se faisait le charbon de bois. Bien, tout cela, il l'a appris avec son père. Il nous en parle.
Oui, je ne l'ai pas appris, c'est pas un art, parce que pour moi, j'ai vécu un peu avec mon père dans les charbonnières. étant tout gamin, puis bon, ben, j'ai continué après par la suite avec lui, quand il faisait des festivités à droite à gauche, et puis j'ai appris avec lui, quoi.
Alors, votre père, lui, était charbonnier professionnel, c'était son métier à plein temps?
Ah, il était professionnel, oui, son métier à plein temps avec ses frères.
En quelle époque? Je crois que c'est durant la dernière guerre mondiale où justement bon, le charbon de bois était très demandé.
Ben oui, ça avait été brûlé, puis alors il faisait charbonnier avec ça. Mais surtout, c'était. Ça remonte à 45-50 ans, quoi. À peu près. Parce que moi, je me rappelle la dernière charbonnière qui a été faite chez moi, la dernière charbonnière qu'il a faite en réalité, quoi. Je lui avais aidé, j'avais couché dans les cabanes avec lui, partout. Enfin, bon, mais. Après, ça a été foutu. Quand le gaz a été arrivé, ça a été foutu.
Oui, il n'y a plus eu besoin de charbon. Parce que le charbon de bois, avant, c'était la ressource principale. Et les charbonniers doubleaux rayonnaient sur pas mal de régions, je crois.
Oui, il n'y avait pas de gaz. Alors, ça servait aussi pour les pégaso. Alors, ça remplaçait le gaz. Puis quand le gaz est arrivé, après, ça descendait. Après, ils n'avaient plus la vente, quoi. Par contre, maintenant, ça voudrait reprendre. Mais seulement, voilà, les charbonniers sont plus là.
Parce qu'il y a des gens qui demandent du charbon de bois fait comme cela.
Ah ben, ils voient la différence avec les supermarchés. Oh pardon, je ne devrais pas le dire.
Oui, de nos jours, plus personne ne voudrait passer 15 jours durant dans les bois, quel que soit le temps, dans une cabane faite de bûches et de pelons. Bon, ça c'était le temps des charbonniers, le temps du père d'André Tevin. Il nous en parle.
Oh, c'est une question d'habitude, hein. Vous savez, ça, c'est comme un routier, ça. Quand il a pris son camion, c'est pareil. Hein. Parce que la cabane, bon, mais voilà, ça dépend des chantiers qu'ils avaient. Parce qu'il y a des chantiers où ils avaient bon, peut-être peu de bois. Vous avez un gros chantier. Bon, mais de toute façon, ils rentraient à la maison aussi, hein. Pas de problème. Hein. Ils restaient là quand c'était trop dangereux, ou alors ils se remplaçaient mutuellement. Il fallait surveiller que la nuit. Quoi. La nuit et le jour, mais ils se remplaçaient. Ça arrivait aussi qu'il y en a qui partaient vendre le charbon, que l'autre gardait la charbonnière, hein, à leur époque. Et c'était à 2 ou 3 ou 4, l'autre commençait à monter ou l'autre allait vendre le charbon. Il fallait que c'était un roulement.
En tout cas, forcément, il faut quand même être plusieurs, tout seul pour faire charbonnier, ça serait difficile quand même.
Ah ben tout seul, oui, c'est difficile. Tout seul, c'est pas évident. Bon, ça va bien pour faire des trucs comme ça, pour une festivité, ben, c'est bon. Mais pour faire le métier, non, c'est pas bon.
Et sinon, alors, les bûches, est-ce que c'est vous qui les préparez? Est-ce que vous faites appel à un bûcheron? Ou est-ce que votre père faisait comme ça aussi?
Ah, mais non, ça nous arrivait de couper le bois pour nous, aussi personnellement, pour en faire pour nous. Eh oui, on coupait le bois, on l'apilait, et puis on le faisait cuire quand on voulait. Ou alors on le faisait pour, comme ça, à droite à gauche. Pour ceux qui avaient besoin de charbon, ou besoin de faire cuire du bois, ou.
À la commande un petit peu.
Oui, un peu à la commande. Quoi. C'est un peu comme maintenant, comme pour quand il y a quelqu'un qui veut faire une petite fête par là, il appelle le charbonnier. Quoi, voilà.
Une dernière question, pourquoi faites-vous ça, vous, à titre personnel?
Moi, à titre personnel, c'est pas à titre personnel, c'est plutôt pour les gens qu'on a besoin. Voilà. Ils ont des amis, à Saint-Olé, c'est pareil, ça serait mon bon, ça serait pareil. C'est la double, je le fais pour la double, voilà.
André Tevin donc participe à la conservation de la mémoire du pays doubleau, la mémoire des métiers du pays de la double, comme celui de charbonnier, lui qui est le dernier en Périgord à connaître encore, eh bien, les secrets de cette profession.